Nous accueillons au studio de Saint-Jean-Royan ce matin Claire Barabé, qui est l'autrice du livre Bingo, l'existence, paru en juin 2023. Bonjour Claire.
Bonjour.
Claire est artiste au Chalutier, le tiers-lieu de la Baume d'Austin, et elle vient aujourd'hui donc nous parler de cet ouvrage, un ouvrage dans lequel elle nous propose une vision résolument positive de l'existence et optimiste, une vision qui fait du bien à l'encontre de la morosité qu'on peut parfois ressentir en ce début d'automne. Alors Claire, peut-être qu'on peut revenir justement sur le contenu de votre livre, donc qui s'appelle « Bingo l'existence ». Pourquoi ce titre ?
Alors c'est comme un peu un cri primitif d'enthousiasme. Bingo l'existence, alors j'avoue qu'il est arrivé un petit peu tout seul alors que j'étais dans ma salle de bain hein, et que je cherchais désespérément un titre et j'en avais plein un peu alambiqué en tête et puis je me suis dit ah non mais celui-là il me fait rire en fait, bingo l'existence, ça, c'est un peu étrange mais en même temps on sent que voilà il y a l'enthousiasme qui transparaît et il me faisait rire et je me suis dit bon bah allez on n'a qu'à prendre lui.
Une sorte de jubilation effectivement qui transparaît de ce titre et qui est bien représentatif du contenu puisque en fait vous nous proposez de prendre conscience du fait qu'on a déjà gagné quand on existe, quand on est vivant.
Voilà, c'est ça. C'est ça et puis en fait tout le livre en fait je pense est traversé par l'idée de jouer. Parce que quand on est adulte, on a tendance à arrêter de jouer alors qu'on continue à vivre dans un environnement qui est extrêmement ludique, que être dans la matière, c'est hyper ludique, et que voilà, l'idée, c'est de pas laisser sa perception s'émousser surtout, et de pas devenir blasé, parce que la pire maladie, c'est le blasage. Voilà un peu le postulat du livre.
Le postulat, donc, c'est de, vous le disiez, donc, de garder ce regard neuf sur l'existence. Comment vous est venue cette idée ?
Alors, en fait, donc, moi, c'est parti d'une expérience que j'ai faite à l'âge de 16 ans, où donc, c'était la nuit, donc, je sais pas, je m'étais endormie tout normalement, donc, je sais pas si j'ai fait un arrêt cardiaque ou j'en sais rien, ou peut-être juste, il s'est passé quelque chose. En tout cas, je me suis retrouvée quelques secondes dans un espace vide. Donc voilà, c'était une expérience très forte sur laquelle j'ai pas envie de mettre d'étiquette parce que j'ai pas envie de... Enfin, c'était très mystérieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en revenant à moi, en fait, c'est comme si j'avais fait un blackout. Et en revenant à moi, ben j'ai vu le monde un peu comme si c'était la première fois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, je me suis dit, mais déjà, il y avait que... En fait, toute la présence des choses, toute la luxuriance, tout le fait qu'il y en ait partout, le fait que ça palpite, que ce soit extrêmement vivant, les couleurs, en fait, tout m'est arrivé avec un signal très fort. Et ça a été une expérience tellement marquante et qui m'a complètement transformée que j'avais, en fait, le besoin viscéral de la partager. Et que pendant des années, j'ai cherché sous quelle forme, parce que du coup, c'était parler de quelque chose d'un peu étrange, que je savais pas trop comment aborder, et que je voulais utiliser comme un négatif en fait pour rappeler que ben on est au milieu d'un environnement qui est extraordinaire et qu'il faut jamais prendre pour acquis, c'est pas banal, c'est pas le minimum syndical, on vit dans quelque chose, un mystère qui éblouit quoi, enfin voilà.
Et pour cette expérience dont vous nous parlez donc à l'âge de 16 ans, vous n'évoquez pas ça forcément comme une expérience, on parle souvent des expériences de mort imminente, ce n'est pas forcément le cas pour vous.
Et alors c'est vrai que j'ai lu des témoignages qui ressemblaient énormément à ce que j'ai vécu et qui étaient dans la catégorie des EMI. Moi j'étais seule, donc j'avais pas de médecin. C'est pas accolé à un problème médical avéré, etc. Donc c'est pour ça que je préfère pas utiliser ce mot-là. En fait, pour les personnes qui s'intéressent à ça, j'ai fait énormément de recherches depuis et je suis tombée notamment sur des articles d'un centre en Suisse qui étudie cette question-là et qui s'est rendu compte qu'il y a des gens qui tombaient dans des états comme ça qui ressemblaient énormément aux EMI de manière spontanée. Donc je me suis dit, ah cool, voilà, on est d'accord, tout ça est tellement mystérieux en fait. Je trouve qu'il faut vraiment avancer avec énormément d'humilité, même si on a vécu quelque chose soi. Il faut jamais généraliser, c'est difficile de... Faut pas penser qu'on gère quoi, on sait pas ce que c'est juste quelque chose de mystérieux qu'on peut décrire, c'est tout quoi.
Et dans vos recherches donc sur ces personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, est-ce que ensuite justement leur vision de la vie à ces personnes-là a évolué suite à cette expérience ?
Bah oui, en général, c'est un des signes, c'est que leur vision a totalement évolué, mais que il y a des expériences qui sont qui reviennent fréquemment, mais chacun son expérience aussi, donc tout le monde n'en retient pas les mêmes choses. Et moi, je pense pas que j'ai vécu une expérience complète, c'est-à-dire il y a des personnes qui vivent un long temps, qui rencontrent des êtres, etc. Moi, j'ai juste été dans le vide, donc comme un petit peu extraite de cette réalité, ce qui m'a juste permis de revenir et de me dire ouf, voilà, de regarder vraiment les choses avec un œil neuf. C'est vraiment ça que je peux dire.
Donc avec un œil neuf à l'âge donc de 16 ans, est-ce que depuis votre regard sur la vie a pu un petit peu s'émousser ou est-ce que vous avez gardé ce regard absolument neuf et émerveillé sur la vie ?
Et ben justement, ce que je mets dans le livre, c'est que non seulement je l'ai écrit pour les autres, mais aussi pour moi comme un mémo ou un post-it 280 pages pour me rappeler. C'est vrai que moi, quand je le relis, ça me remet dans l'état. Mais sinon, bien sûr que tous les jours, il m'arrive de fonctionner en me disant je dois aller du point A au point B, en me disant oh, la flemme, et en étant totalement en mode off.
Mais voilà, à travers cet ouvrage, donc, vous nous proposez de garder ce regard émerveillé sur la vie et de prendre conscience donc de toutes les choses qu'on ne réalise plus en fait au quotidien, mais qui sont assez incroyables finalement. Est-ce que peut-être on peut donner quelques exemples à nos auditrices et à nos auditeurs ?
Bah oui, bien sûr. Donc là, l'idée, c'était vraiment de transformer en cadeaux, donc de mettre sous la forme de cadeaux des choses dont on jouit tous les jours sans même plus les voir. Donc il y a par exemple une boîte de bonbons acidulés pour les yeux, donc ça c'est les couleurs. Donc il y a un certain nombre d'exercices pour voir surgir les couleurs, parce que c'est vrai qu'elles font partie du panorama mais qu'on les oublie, alors que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans un monde coloré. C'est quand même, je le mets un peu sous forme de boutade, mais c'est un peu un indice sur l'endroit où on est. On est dans un endroit où, certes, il y a des personnes qui s'habillent en costard et qui signent des conventions avec un visage minimaliste au niveau des expressions, mais autour, il y a des couleurs qui se sont infiltrées partout et voilà, l'habit de carnaval est imposé au monde.
Oui, vous parliez de pastilles de couleurs parce que, en fait, c'est un ouvrage très ludique que vous nous proposez avec des exercices pratiques pour s'exercer à avoir ce regard sur le monde. Quels sont les exercices qui sont proposés aux lecteurs ?
Alors, il y a des exercices, donc, comme on vient de dire, pour les couleurs, mais il y a aussi des exercices par rapport à son identité. Puisque c'est vrai qu'on est tacitement invité à jouer la même identité tous les jours, à être surtout fidèle à son style vestimentaire, à dire des choses qui nous ressemblent, etc. Or, parfois, dans le contexte approprié, évidemment, on peut énormément jouer à entre guillemets, se déguiser de soi à soi, se dire « Tiens, je mets quelque chose qui me ressemble pas du tout, et on va voir ce que ça donne. » Ou alors utiliser la parole de manière super libre pour tester un peu les réactions des gens, jouer avec les modulations de sa voix, en fait se rappeler qu'on est dans un monde matériel un peu play school et jouer comme un enfant avec les réglages. Voilà,
avec les possibilités infinies quelque part que nous offre à la fois notre corps, la vie, le monde autour de nous.
Voilà, c'est ça en fait, se rappeler que encore une fois la matière autour de nous c'est hyper ludique. Et que on n'est pas dans un monde idée, quoi. On est dans un monde bien, bien réel et avec plein de sensations et plein de choses à tester, ce que les enfants se permettent de faire.
Alors, cette vision que vous proposez de voir un petit peu le monde et l'existence à travers de ce qu'on pourrait appeler des lunettes roses, est-ce que si on se fait pas un petit peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas trop positif? Est-ce que c'est réaliste finalement de voir le monde de cette manière?
Alors, parce que pour moi, c'est pas des lunettes roses, c'est vraiment des lunettes multicolores. Et c'est moins dire, oh là, le monde est parfait, etc. Non, non, pas du tout. Oui, le monde est hyper cruel aussi, mais il est aussi spectaculairement beau qu'il est cruel. Et c'est moins être justement dans une espèce de torpeur en se disant tout va bien que se réveiller en fait et vraiment s'amuser. Mais s'amuser, ça permet de récupérer un peu ce qu'il y a de drôle dans les situations, même quand elles sont difficiles en fait. Ne pas oublier de toujours se nourrir des stimulations, même quand on est dans un moment difficile, même si c'est évidemment les moments où c'est pas évident. Voilà, mais le message, c'est vraiment plus de pas oublier toutes les possibilités de jouer plutôt que rester positif à toute épreuve.
Et vous, d'ailleurs, vous proposez une rubrique « Ça pourrait être mieux ». Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qu'on pourrait améliorer dans notre existence et dans le monde autour de nous.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que bon, comme je le dis, je fais un peu la publiciste pour les cadeaux gratuits de la vie, mais bon, il y a un peu une rubrique syndicale où je suis là, bon, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, on va quand même pas oublier qu'il y a quand même un certain nombre de trucs où on se fait quand même avoir et où on n'a pas du tout, du tout ce qu'on voudrait ultimement obtenir dans l'existence. Donc, c'est bien d'en parler aussi, quoi.
Et vous parliez donc, Claire, de votre expérience à l'âge de 16 ans, donc cette expérience qui vous a beaucoup marqué et qui vous a permis de voir le monde autrement. Et ensuite, donc vous avez voulu partager cette vision et l'expérience que vous aviez vécue. Ça a pris donc plusieurs années et ça a pris donc la forme d'un livre. Comment en êtes-vous arrivé donc à cette conclusion, en quelque sorte? Quel a été le processus pour vous?
Alors ça, oui, ça a mis des années, ça a mis, franchement... Encore une fois, je pense que je suis très très bonne pour décomplexer les gens qui ont un projet et qui mettent trop de temps à l'accomplir. En se comparant, voilà, à ces jeunes prodiges qui en 3 mois créent une start-up ou écrivent un tome de livres. Non, moi j'ai mis 20 ans. Je pense, franchement, parce que j'en ai écrit 5 versions différentes, mais qui n'avaient rien à voir avec celle-là, qui étaient du théâtre, ou alors un conte philosophique, un roman, enfin. Et à chaque fois, j'étais pas satisfaite, mais je savais que je voulais absolument mettre des mots et partager ça, mais j'en étais jamais contente. Et puis un jour, j'ai écrit ce livre et je me suis dit, bon ben, là, je suis vraiment contente, ça dit ce que je voulais dire. Et puis maintenant, j'ai plus le droit de le lire parce que sinon, évidemment, on a envie de le refaire perpétuellement. À un moment, faut arriver à s'arrêter. Et puis, je pense que l'avoir fait, ben, ça me permet encore maintenant de continuer à évoluer par rapport à ce qui s'est passé et que je continue à interroger encore maintenant, quoi. Voilà.
Et ce livre, comment avez-vous pu l'éditer?
Alors, j'ai fait de l'auto-édition, mais en étant vraiment bien accompagnée pour surtout. Alors, bon, déjà, c'est vraiment très 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 long d'éditer un livre. Enfin, c'est de finir un livre. Il y a cette théorie qui dit que on fait 80% du travail en 20% du temps. Et qu'ensuite les 20% restants prennent 80% de temps. Bah c'est un petit peu ça en fait. Quand on croit avoir fini, ben c'est pas fini. Et il faut ben évidemment retravailler. Ensuite, quand on est sûr de son texte, corriger. Là il y a en plus des visuels, donc il y a énormément de travail de création visuelle. Et la mise en page, ensuite il y a tout le fait de formater son livre, etc. Enfin c'est un peu l'histoire sans fin. Mais bon, une fois qu'on a fini, on est content.
Et vous aviez donc une équipe autour de vous pour notamment la création visuelle?
Bah, j'avais des personnes pour me conseiller. La création visuelle, c'est moi qui m'en suis occupée puisque je me suis formée en fait en cours du soir à Photoshop dans une école d'art. Et en fait, après, bah voilà, c'est des personnes pour me conseiller, pour me corriger les fautes. Et puis voilà.
Et donc le livre a été édité à combien d'exemplaires?
Alors il a été, en fait il peut être commandé en librairie, donc ça c'est pratique, c'est de l'impression à la demande. Sinon j'en ai eu 200 exemplaires voilà, que j'ai pu vendre moi.
Et quel a été, donc je le disais, le livre est sorti en juin 2023 je crois.
Ouais.
Quel a été l'accueil réservé à votre livre depuis sa sortie? Est-ce que vous avez eu des retours?
Ah bah oui, heureusement j'ai eu des retours. C'est pour ça que j'avais d'abord envie d'avoir quand même des retours avant de lancer la promotion un petit peu plus largement. Et les retours qui m'ont fait le plus plaisir, c'est des personnes qui m'ont dit « Ah, mais oui, ça a changé. Je me suis vraiment amusée à faire les jeux et je me suis dit « Ah, mais c'est incroyable d'avoir un corps. Ah, mais c'est vrai, on est dans un monde coloré, etc. » Donc là, je me suis dit « Ah bah, bingo. » Voilà. Mais par contre, j'ai quand même envie de dire, pour avoir beaucoup partagé des œuvres ou des choses avec les autres, je trouve que c'est pour ceux qui ne l'ont jamais fait et qui ont envie de le faire, de partager un livre qu'ils ont écrit ou une création, faut toujours savoir que ils vont avoir un kaléidoscope de réactions très différentes de la part des autres et que voilà, c'est une personne va dire ah oui mais c'est pas l'écriture inclusive, l'autre va dire mais est-ce que c'est le papier est un peu rêche, l'autre va dire oui ça m'a fait penser à mon enfance, enfin voilà, donc il y a autant de réactions que de personnes, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand il y en a quelques-unes qui sont enchantées, bon bah c'est que là on a réussi quelque chose.
Des commentaires parfois un peu inattendus donc de lecteurs de votre ouvrage. Je rappelle le titre, Bingo, l'existence. Où peut-on l'acheter sur le territoire?
Alors, on peut le commander sur Internet, mais aussi en librairie, dans plusieurs librairies à Romans.
On peut peut-être revenir maintenant un petit peu sur votre parcours, Claire. Je le disais, vous êtes artiste au Chalutier, le tiers-lieu de la Baume d'Austin. Quelles sont les activités que vous développez là-bas?
Et ben là-bas, je propose des animations que j'appelle philosophiques. Donc c'est un mélange entre fou et philosophie. Donc l'idée, c'est de vivre des expériences assez divertissantes et un peu déjantées pour réfléchir et essayer de déplacer notre regard sur le quotidien et de chatouiller un peu nos habitudes, quoi. C'est ça l'objectif. Donc au Chalutier, ben j'avais un espace, parce que là, donc je suis en train un peu de faire mes bagages pour d'autres aventures, mais j'avais un espace pour faire des décors et très agréable. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le Chalutier, c'est un tiers-lieu à la Baume d'Austin et qu'il y a encore plein d'espaces. Donc, si vous avez envie de travailler le bois, si vous avez votre entreprise où vous faites des bijoux, de la céramique ou peu importe, c'est vraiment un espace avec plein de possibles.
Un lieu ouvert, donc voilà. Le Chalutier. Et de votre côté, quel a été votre parcours? Comment êtes-vous arrivée au Chalutier?
Alors moi, je suis arrivée au Chalutier et parce que donc j'étais au départ à Grenoble et je cherchais un tiers-lieu avec des ateliers partagés. Donc on pourrait se dire, oh bah oui, ben à Grenoble, forcément, ça doit courir les rues, etc. Et ben, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait vraiment. Et donc, j'ai commencé à faire 75 km régulièrement pour venir au Chalutier, pour avoir l'espace qui me convenait et voilà, et un lieu qui répondait à mes besoins.
Peut-être un dernier mot, Claire, pour savoir comment vous contacter. Est-ce que les lecteurs de Bingo l'Existence, s'ils souhaitent vous faire des retours, peuvent vous contacter?
Ouais, moi, j'ai laissé mon mail à la fin. En disant bien, laissez-moi un message, ça me ferait très très plaisir, parce que c'est vrai qu'écrire, c'est tellement solitaire en fait que quand on écrit, les gens sont pas là, et quand ils nous lisent, on n'est pas là. Donc c'est vrai qu'un échange après, c'est moi je suis friande.
Donc je vous donne le mail que je lis à l'instant, donc à la fin du livre, bingo.l'existence@gmail.com, pour joindre donc Claire Barabé, autrice du livre Bingo l'Existence, paru en juin 2023. Merci beaucoup, Claire.
Merci beaucoup, Anouchka.